Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi, il est 18h. On est très heureux de vous accueillir. On est parti pour une bonne heure pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée aux adaptations littéraires en dessin animé ou en série pour la télévision. On va avoir longuement l'occasion d'en reparler. Je vous présente dans un instant l'équipe qui est à mes côtés, Lola et Arnaud qui sont là. Bonjour à tous les deux, merci.
Salut, salut Alexandre.
Ça va, vous allez bien?
Ouais, ça va super, et toi?
Bah, je vous ai bloqué à Paris pendant un week-end prolongé pour enregistrer cette émission. Je suis ravi.
Voilà. Nos familles, nos belles familles vont nous pardonner.
Je les embrasse. Allez, on part tout de suite. C'est le sommaire de cette émission, tout de suite en images. Le club ouvre donc ses portes pour parler des adaptations littéraires en dessin animé et en série. Je suis ravi de vous les proposer. Avec Lola, on reviendra sur trois figures de la littérature française, Jules Verne, Conan Doyle et Agatha Christie, tandis qu'Arnaud nous présentera les différentes adaptations qui existent en télévision, en série ou en dessin animé. Quant à moi, je vous parlerai de l'adaptation pour la séquence des spectateurs d'un jeu de société en émission. Voilà, on a un beau programme pour commencer cette émission. Mais émission sur la pop culture oblige, je voulais qu'on commence cette émission par rendre hommage à un acteur japonais qui vient de nous quitter il y a quelques jours. La génération des années 80 le connaît forcément. Il a signé, il était le héros d'une des séries emblématiques des années 80. Ça s'appelait Gabian en Japon, mais ça s'appelle Xor évidemment. En France, représentant d'une vague de séries qui s'appelait les Metal Heroes, des héros solitaires qui revêtent une armure de combat. Kenji Oba a surtout été formé dans des grandes écoles de cascade au Japon. Il a évolué en jouant notamment en étant dans doubleur de cascade pour pas mal de séries. Je crois qu'il était sur Sankukai, il me semble.
Hein. Oui, c'était le Staros, c'était donc la doublure de Ryu.
De Ryu, le héros de la série.
Quand on le voyait habillé en Staros.
Et en 1982, je me trompe pas, il devient donc le héros de Xor, le shérif de l'espace. Une série qui connaîtra une saison, une quarantaine d'épisodes, avant d'être décliné en deux modèles suivants, Charivan et le Captain Shider, dans lequel il jouera le mentor à chaque fois, et il continuera régulièrement de prendre l'apparence de Xor au cinéma ou à la télévision depuis la fin de la série, depuis 35 ans. Évidemment, pour toute une génération, la disparition de Kenji Oba, ça a fait un peu l'effet d'une surprise, parce qu'il était jeune, il était en 1955, ouais. Et c'était pas quelqu'un qu'on s'attendait à voir partir maintenant.
Oui, 71 ans, ça reste encore. Et puis, bon, ce sont des grands sportifs, donc ils sont en pleine forme, quoi. Et bah, personne n'y échappe, malheureusement. Il a eu cette longue maladie dont il n'a pas pu venir à bout. Et voilà, il était venu en France en 2001 pour les cartoonistes. Et beaucoup de personnes l'avaient rencontré. Et voilà, c'est quelqu'un de débordant de gentillesse et d'enthousiasme, et qui se prêtait au jeu pour refaire la chorégraphie d'Ixor quand il se transformait. Enfin, voilà, c'était un grand monsieur. Et puis il a une carrière cinématographique aussi. Il était dans Kill Bill par exemple, dans le 1 et le 2, hein. C'était un des maîtres japonais.
Alors c'est son maître à lui,
Sonny
Chiba, qui a été le maître de qui l'a formé, voilà. C'est pas lui, il apparaît pas, je crois pas.
Si, il est dans Kill Bill aussi, le 1 et le 2, j'en suis certain.
Ah bah, vérifiez, j'ai un gros doute. Vérifiez.
Écoutez, chez vous, vérifiez.
Vérifiez chez vous.
Voilà, envoyez-nous un SMS au 61-20-20.
Non, non, je suis à 12 euros la seconde.
Je suis certain qu'il était.
On va vérifier. En tout cas, moi, j'y crois pas.
Bon.
Mais voilà. Mais
en tout cas, on pense fort à lui, voilà.
Évidemment, et grande série qui a marqué des générations d'enfants. Recréa 2, cette capacité de mélanger effectivement ces séries un peu à la Bioman, mais avec un héros normalement solitaire. Mmh. Et puis cette épée laser à la Star Wars, c'était la grande époque, ouais. De ça. Et puis, bah, évidemment, comme la série est arrivée en France, elle a eu le droit aux honneurs d'un générique français.
Par Jean-Pierre Savelli.
Et alors, on va vous proposer le clip,
oui.
Une petite bout du clip pour rendre hommage évidemment à ce grand monsieur Kenji Oba qui jouait donc le rôle de Xor. Un petit bout du clip qui était diffusé régulièrement dans Recréa 2, qui aujourd'hui il pique un peu avec les époques, mais à l'époque ça nous faisait rêver,
ouais.
Parce qu'on trouvait ça génial.
Surtout qu'il tient un personnage de...
Il tient Charivan.
Oui, il tient Charivan.
Il
en fait,
tient le Xor 02, c'est pas le bon.
Xor rouge, voilà, ah, qui n'est pas le bon. Donc pour
vous regarderez, il l'a dans les mains. Bon, il est pas.
Voilà,
pas
allez, on lui pardonne.
Mais vous allez voir le clip, bah voilà, ça renvoie à la couleur particulière qu'avaient les clips produits dans l'époque de Recréa 2, où les chanteurs étaient incrustés dans le dessin animé. Regardez un petit extrait.
Ne crains rien, il nous protégera.
il apparaît à l'intérieur. C'est génial. Alors, je résiste pas, évidemment.
Le Roller Sky.
Le fameux Roller Sky de XOR, avec là, les petits personnages de XOR, donc, qui est dedans, l'épée laser, etc. Et c'est vrai qu'il y a même le Morox, ouais, qui est le robot géant qui est sorti.
Le dragon.
C'est vrai que, voilà, petit objet collector, voilà, que je m'étais. Que je m'étais offert, qui est la réédition, qui a été faite pour les 40 ans de XOR et qui est sortie il y a quelques années, que j'ai acheté. Voilà, je voulais en profiter évidemment pour vous le présenter. Il existe et on peut encore le trouver partout. On voulait évidemment rendre hommage à Kenji Oba, qui a peut-être, selon les dires de Arnaud Manier, joué dans Kill Bill, mais
c'est. Non, je tiens à dire
l'histoire
que
nous avons
bon. Vérifié pendant le clip.
Il n'y a rien vérifié.
Pas de mettre tout, j'ai raison.
C'est pas grave, on y reviendra à la fin de l'émission. je m'excuserai platement si je me suis trompé. Bon. On rentre dans le dossier de cette émission, les amis, et on va commencer à faire ce grand rendez-vous. On va vous parler aujourd'hui de ces œuvres littéraires, de ces grands auteurs qui ont passé la frontière de la télévision et qui sont arrivés en série ou en dessin animé. On a essayé d'aller vous proposer effectivement des choses très connues, des choses moins connues, et de faire le ping-pong entre télévision, dessin animé et puis œuvre littéraire avec Lola. Et pour présenter et pour lancer cette réflexion, voici une première archive que Arnaud nous a ramenée avec un grand acteur du cinéma, Omar Sharif, qui nous parle évidemment de ce qu'on va découvrir dans ce dossier avec nos invités. Regardez.
Eh bien, parlons de vos films et non pas de vos jeux, quoi que ce soit un de vos grands plaisirs. Nous allons avoir l'occasion de voir dans quelques semaines, en cette période de vacances d'ailleurs, il va sortir dans beaucoup d'endroits, à Lyon dans quelques jours et à Paris à la rentrée.
Sur les plages, dans les villes d'eau.
Et à Paris à la rentrée, L'île mystérieuse.
L'île mystérieuse de Jules Verne, exactement.
Titre célèbre, titre merveilleux, livre qui a fait rêver.
Je crois en plus qu'il était temps, parce que moi je considère que quand j'étais enfant, quand nous étions enfants, nous avons eu plus de chance que les enfants d'aujourd'hui. Parce qu'on avait Walt Disney qui faisait des films. On avait des films d'aventure fantastique, Coumgadine, moi je me souviens avec grande joie, Les Lanciers du Bengale, Les Quatre Nuits Blanches.
Gary Cooper.
On faisait vraiment des films pour les enfants et que les adultes appréciaient beaucoup. On n'en fait plus. J'ai l'impression que les enfants sont plus maltraités aujourd'hui qu'avant.
Et puis Laurel et Hardy étaient vivants. Les Marx faisaient tous leurs chefs-d'œuvre. Ouais, mais enfin, il y a tout de même beaucoup d'œuvres intéressantes. Mais je comprends ce que vous voulez dire. L'univers des enfants, soit l'univers comique, soit l'univers d'aventure, est moins traité.
Il y en a très peu, presque pas. Tous les films aujourd'hui sont pratiquement interdits aux enfants.
Et voilà.
Très intéressant.
C'est très intéressant, surtout par celles et ceux qui ont tendance à nous dire c'était mieux avant. Et on a vécu, et en fait, on se rend compte qu'on est on a toujours ce regard un peu. On dit vieux con aujourd'hui.
Mais ça fait un peu ça, parce que là, on est en 1973, et donc il est en train de parler à notre génération. En tout cas, moi, je suis né en 73, donc je suis en plein dedans. Et il est en train de nous dire que nous, on était moins gâtés que eux. Alors que, moi, j'ai cette impression par rapport à ta génération, à toi, par exemple, là, tu vois, en disant, nous, on a quand même connu plus de trucs. Alors, est-ce que c'est transgénérationnel? On a toujours, à un moment de notre vie, l'impression que c'était mieux avant, peut-être, Ça pose vraiment une vraie question, à la vraie dire.
Peut-être que c'est le regard de l'enfant. On se dit, le regard de l'enfant, on perçoit qu'il a plein de choses. Et une fois qu'on est adulte, on voit des enfants d'autres générations en se disant, finalement, ils n'ont pas tant de choses que ça. Peut-être que moi, j'avais plein de choses, mais c'est peut-être le regard, la différence entre le regard de l'enfant et de l'adulte.
Absolument.
C'est ça qui est intéressant de constater finalement que, je ne sais pas si c'était mieux avant ou si on est mieux servi, mais en tout cas, on va vous prouver que des années 60 jusqu'à la fin des années 90, il y avait énormément de choix en matière de programmes pour la télévision, et notamment l'adaptation littéraire, parce que là aussi, on a tendance à dire aujourd'hui qu'on sature parce qu'on adapte tout et n'importe quoi, mais on se rend compte que depuis toujours, on a adapté, et notamment les grandes œuvres de la littérature ou de la BD.
Oui, absolument. C'était un peu. Il faut remettre dans le contexte, parce qu'effectivement, là, c'était les balbutiements de la télé, et puis l'envolée de la fin de l'ORTF avec tous les costumes, les pièces qui jouaient en direct, parfois à la télévision. Et les super-héros tels qu'on les connaît aujourd'hui, les Marvel, etc., n'existaient pas, les DC Comics. Et donc là, les super-héros de l'époque, c'était les héros de la littérature, en fait, et donc du folklore comme ça.
On avait l'araignée.
On avait en 73 mais c'était, si tu veux, en adaptation, en termes d'adaptation, ils piochaient dans soit des pièces de théâtre, soit des romans célèbres du 19e siècle dont Lola va nous parler, et c'était un petit peu nos Marvel de l'époque, quoi. C'était le Comte de Monte Cristo, c'était les Trois Mousquetaires, c'était Rémi sans famille, enfin tout cela, voilà, c'était ce que les enfants portaient comme ça, en se disant ils ont vécu des choses folles, ça me donne envie, L'île au trésor, voilà.
Dans un instant, on va parler de la première, finalement, romancière importante qui a donné naissance à pas mal d'œuvres pour la télévision, notamment en série avec Lola et avec Arnaud. On parlera d'Agatha Christie, évidemment. On parlera de Conan Doyle aussi et de Jules Verne un petit peu plus tard. Mais on va rentrer un petit peu dans la découverte de nos archives pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on proposait à la télévision. Si je vous dis Lewis Carroll, évidemment, ça parle à tout le monde. Ça a été un personnage, le personnage d'Alice, qui a été beaucoup adapté, que ce soit à la télévision, évidemment par Disney ou encore par Tim Burton. Ouais. Et puis, il y a eu une série japonaise qui l'a traité. Et alors, nous, on s'est dit, on va pas aller chercher l'évidence qui est de vous proposer le générique. Je remercie, enfin, si le générique, mais pas en dessin animé, je remercie Arnaud qui nous a trouvé un extrait de la chanteuse qui interprète le générique en télé.
Voilà, la chanteuse qui s'appelle soi-disant Alice. Alors, je sais pas si c'est vrai. Rue nous l'aurait dit certainement parce qu'il doit la connaître, mais moi, j'ai pas assez de connaissances sur ce sujet. Mais elle était venue dans quelques émissions comme ça sur TF1, évidemment, parce que là, c'était diffusé sur TF1. Et la particularité de ce dessin animé aussi, pour compléter, c'est que ça reprenait donc l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec tous les personnages. Mais aussi de l'autre côté du miroir, la suite, ce qui n'était pas forcément toujours adapté, parce qu'on reste sur Alice. Donc là, voilà, il y a cette chanteuse qui vient dans Salut les petits loups, aux côtés d'Isabelle Duhamel, et hop, on la voit chanter.
Et autre particularité, c'est qu'effectivement, dans Alice, on a la grande histoire, puis après, elle rebascule dans le monde des humains. Là, régulièrement, dans le dessin animé, à la fin de chaque épisode, elle rebasculait dans le monde des humains, il y avait une espèce de petit cliff qui permettait de repartir de notre temps. Ben voilà un petit extrait du générique d'Alice au Pays des Merveilles par Alice, regardez.
Je m'appelle Alice, j'ai le cœur rêveur, j'imagine en esquisse un monde de bonheur, un lapin qui donne, des oiseaux qui parlent et qui pleurent, c'est moi Alice.
Bon générique, évidemment, version française du dessin animé japonais qu'on découvrait le samedi, je crois, sur TF1. Ça,
qui est passé sur la 5 après aussi. Enfin, c'est un dessin animé vraiment de très bonne qualité.
Autre adaptation très connue, qui a même eu droit dans les années 70 à deux acteurs pour interpréter ce personnage, qui est un personnage qui existe. Qui est le personnage d'un célèbre bagnard appelé à rentrer dans la police française. C'est le personnage de Vidocq, et là c'est l'immense Claude Brasseur qui joue évidemment ce rôle dans une série réalisée par notamment Marcel Bluval. On va y revenir dans un instant avec Arnaud, mais regardez Vidocq. Grande série, hein,
grande série
là,
oui,
des années 70.
Les années 70, voilà, qui reprenait donc aussi les aventures de Vidocq qu'on avait eu en noir et blanc, dont le générique était chanté par Serge Gainsbourg. Donc il y avait cette volonté de faire du bon boulot et puis de mettre vraiment le paquet sur le générique, les paroles, les chansons. Cette série aussi, les nouvelles aventures de Vidocq donc sont en couleur, les précédentes étaient en noir et blanc.
Bernard Noël, non, c'est pas ça.
Et elles étaient écrites là par Georges Neveu, qui était donc l'auteur de pièces de théâtre, notamment Juliette ou La Clé des Songes. Et en fait, il faut savoir qu'il s'est inspiré donc de Eugène François Vidocq, qui a lui-même existé, et que rien n'était vraiment écrit, et donc lui-même a écrit, s'est transposé en fait, et donc c'est sympa de voir aussi que la réalité prend le pas sur la fiction. Qu'est-ce que je voulais dire aussi?
C'est les grandes heures de la télévision, il faut le préciser.
Ah oui.
Parce que quand on dit qu'il n'y a pas eu d'âge d'or à la télévision française, les époques de Vidocq, ça en fait partie.
Et il y avait des gueules comme ça qu'on a vues, notamment un des tollards là, qui était donc devenu après dans la brigade de Vidocq, qui jouait dans Les Mystères de Paris, qui était lui-même, elle-même, cette série, une adaptation de Gensu, qui était. Enfin voilà, donc il y a tellement de choses à dire. Il faut savoir aussi que le personnage de Vidocq a inspiré les auteurs de l'époque aussi. Donc il a inspiré Alexandre Dumas pour créer des sortes de héros comme ça, Victor Hugo ou Honoré de Balzac. Donc voilà, plein de choses à dire.
Et c'est quelque chose qui sortait à quelle fréquence? C'était un par semaine ou c'était...
Ouais, c'était toutes les semaines, ouais, après c'était
des... C'était des saisons souvent de 13 épisodes à l'époque.
Voilà, c'est ça.
D'accord, et okay. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a eu... Claude Brasseur est arrivé sur la saison 2.
Oui.
D'accord.
C'était, Bernard Noël disparaît entre les deux saisons. Et que...
C'est une heure par semaine, un truc comme ça.
Ouais. Oui, en fait, okay. Bah, ce sont des multiples de... pour tenir le nombre de semaines, c'est-à-dire 13 semaines, 26 ou 52 pour, pour une année. D'accord. Donc voilà, c'était ça.
Génial.
Autre adaptation, cette fois-ci je pars aux États-Unis, Mark Twain. Ça vous parle forcément. Et ce dessin animé-là, il est connu par plein de journaux. Je sais que ça ne te parle pas.
Oh, bof.
Tu es une imposture, toi, toute seule. Qu'est-ce que tu veux que je te
dise?
Ce personnage-là, il a traversé évidemment les époques. Et ce dessin animé-là, particulièrement, je pense que toutes les générations le connaissent ou l'ont vu un petit peu passer à la télévision. Parce qu'il est passé aussi bien à la grande époque des émissions jeunesse des années 80 qu'à la grande époque de Midi les Zouzous. Regardez Tom Sawyer. Tous ceux qui aiment la vérité, je vous en mettrai en lien dans l'émission. Il y a quelques années, nous recevions dans ce plateau Elfie,
la chanteuse,
qui maintenant vit aux États-Unis et qui était la chanteuse qui était de passage à Paris et qui nous avait fait le plaisir de venir dans ce plateau nous rechanter le générique de Tom Sawyer en live.
Elle chantait le générique de début, le générique de fin.
Et le générique de fin.
Oh, comme trois pommes.
Tom Sawyer est la jolie personne. Elle faisait partie de l'équipe de Récréa 2 aux côtés de Dorothée et de tous les animateurs de l'époque.
Ouais.
Grand dessin animé, je disais que ça a marqué plein de générations.
Bien sûr, oui. Et puis il y a eu des adaptations en série aussi qui passaient du temps de l'ORTF. Tom Sawyer, ce sont les aventures d'Huck Finn aussi, écrites par Mark Twain, qui en a fait. Comme ça, beaucoup rêver les enfants. Et c'est toujours le même principe. C'est-à-dire, c'est un enfant qui aime pas l'école, comme on disait en générique, et qui trouvait, par le biais de son pote Huckleberry Finn, qui était un enfant sauvageon abandonné. Qui vivait abandonné, ouais, qui vivait dans la forêt avec des cabanes et tout. Et hop, ils allaient notamment à la rencontre de trésors perdus et puis de Joe l'Indien qui nous terrifiait tous quand on était gamins.
Il avait une sale tête, il tuait des gens et en fait il apparaissait avec tintin.
Voilà, il y avait une musique de fou qui arrivait.
Et il apparaissait dans des grottes, notamment il le retrouvait dans une grotte. C'est un grand dessin animé.
Ce qu'il faut dire, c'est que donc pourquoi a-t-on autant adapté? Tout simplement aussi, c'est une question de droit, c'est-à-dire que passer un certain temps, ça rentre dans le domaine public et hop, il y a moins d'argent à payer. Donc pourquoi pas adapter, c'est pas les héritiers qui vont forcément...
Mais c'est vrai que les Japonais ont été très friands de ça, ils ont adapté énormément de personnages de romans français notamment.
Ouais.
On pense évidemment à Belle et Sébastien, adapté par les Japonais avec Cécile Aubry.
Rémi sans famille, Hector Malo,
ils en ont adapté beaucoup.
Plein.
Ils en ont adapté beaucoup. Dans un instant, on va s'intéresser à la Reine du Crime. Évidemment, avec toi Lola, puis avec Arnaud, on va continuer évidemment à en parler. Mais c'est un personnage maintenant auquel on va s'intéresser, qui va nous intéresser maintenant. Et je vous en ferai un petit clin d'œil à la fin de cette émission. Évidemment, il a été alors lui interprété par une pelletée d'acteurs, depuis un ancien nageur jusqu'à des acteurs plus obscurs, voire des acteurs très connus comme Christophe Lambert, qu'il a interprété dans Greystoke. C'est le personnage de Tarzan. Et voici, quand la société Filmation de Lou Scheimer s'en occupe, ça donnait ça, regardez.
La jungle, c'est ici que je suis né. Et c'est ici que mes parents sont morts, alors que je n'étais qu'un enfant. Je serais mort très vite, moi aussi, si je n'avais pas été recueilli par une femelle singe nommée Kala. Elle m'éleva comme son propre enfant et m'enseigna les lois de la jungle. J'appris très vite et devins plus fort chaque jour. Et maintenant... J'ai l'amitié et la confiance de tous les animaux de la jungle. La jungle est pleine de beauté, de danger, de villes perdues où se cachent le bien et le mal. Ici est mon domaine, et je protège ceux qui y viennent, car je suis Tarzan, seigneur de la jungle.
Ta-da. Ah ouais, hein. Lou Schumer, créateur des Maîtres de l'Univers, et on reconnaît le faciès de ces personnages propres à Lou Schumer.
Et un déplacement un peu en rotoscopie, c'est-à-dire qu'on s'était calqué sur les déplacements humains, donc il y a une façon de se mouvoir comme ça, très, très étrange, des musiques fantastiques. Ouais, une façon de marcher qu'on reconnaît dans Musclor, qu'on reconnaît dans
Zorro, il a fait Zorro aussi, effectivement, une adaptation qui était assez dingue. Voilà. C'est pas des séries qui ont forcément duré très longtemps dans le temps pour certaines. Mais en tout cas, ils ont marqué les générations.
Oui, complètement. Et puis Tarzan, c'est le héros des enfants aussi. Il y a toute cette notion de transmission, un enfant abandonné, l'enfant sauvage. Enfin, ça reprend plein de choses que François Truffaut, qu'on voyait aussi à l'époque. Et donc, il y a une sorte de volonté de dire, c'est un peu comme Rousseau, l'homme est bon, quoi qu'il arrive. Et donc, s'il est dans la nature, il sera bon. Ce qui n'est pas forcément vrai, je pense. Mais bon, voilà, discuter. Ouais,
et comme ce mythe, effectivement, de l'enfant sauvage qui revient sur plein de... On le voyait avec Tom Sawyer, on le voyait dans l'idée que quand l'école est loin, c'est quand même le mieux. Ouais. On le voit avec Heidi, on le voit avec le club des cinq quand il n'y a pas école. Bah, c'est le moment où les aventures commencent.
L'école de la vie.
C'est trop bien. C'est là qu'on apprend vraiment, on va dire, les relations humaines, ce qui se passe vraiment en dehors des maisons, de l'école, de tout ça, de tout ce qui est enfermé.
Ceci, il faut faire attention parce que quand on sort trop longtemps, on peut se faire trucider à coups de couteau, assassiner à coups de revolver. Boire en buvant une coupe de champagne.
Empoisonné.
Ça peut être radical. On va s'intéresser maintenant à la reine du crime. Agatha Christie, évidemment, qui a été largement adaptée à la télévision, adaptée au cinéma. On va y venir dans un instant avec toi, Lola. On va en reparler. Mais petite introduction pour présenter la dame, la reine du crime, comme on l'appelait. Un petit extrait, regardez. Et voilà, cette série. Alors, je disais, pourtant, Agatha Christie, c'est un peu mon dada, mais là, je ne connais pas.
Oui, bon, journaliste spécialisé en série, tu parles. Mais oui, non.
Est-ce que tu peux nous parler en détail de cette série?
Non, je la connais pas non plus. Non, elle passait sur France 3 en 93, si j'ai bonne mémoire. Et puis,
c'est tout ce qu'il sait sur la série.
Non, c'est pas vrai. C'était filmé donc en prise de vue réelle et puis en Angleterre. C'est vraiment une ambiance de Miss Marple et de Barnaby et de ce genre de choses. Et ça reprend donc des romans célèbres. Et non, c'était hyper bien joué. Et puis, elle mériterait de sortir en DVD et d'être revue plein de fois. C'est vraiment un petit bijou.
Voilà, il faut dire qu'elle est sortie en même temps que le David Suchet.
C'est ça.
D'Hercule Poirot, et donc c'est quand même un peu compliqué de rivaliser avec.
Et il y a ce lancement iconique de Thames, là, qui veut dire Tamise en anglais, vous savez, c'est le fleuve à Londres, et puis ça fait penser à Benny.
J'ai cru que moi c'était Benny, quand j'ai enlevé ça, il y a un petit show qui va se faire taper dessus sur la table.
Et ben non, c'était pas moi non plus.
C'était pas toi non plus.
Voilà, mais Agatha Christie, revoyons cette série qu'elle repasse à la télé, qu'elle sort en DVD, voilà, très très petit.
Ou replongeons-nous dans les romans d'Agatha Christie, la reine du crime, comme on l'appelait.
Honnêtement, je pense que c'est une très très belle idée, parce que Agatha Christie, c'est toujours un bonheur à lire, je pense que vous serez d'accord. Moi, c'était la première autrice que j'ai pu découvrir, mais à travers les bandes dessinées. Donc, on est aussi dans des adaptations qui ne sont pas cette fois-ci en série ou autre, mais c'est la première fois que je lisais. Donc, j'ai pris toutes les bandes dessinées, c'est assez sordide, hein, mais toutes les bandes dessinées d'Agatha Christie, et je découvrais tous les livres comme ça. Après, j'ai lu les romans et j'ai découvert l'adaptation de David Suchet, qui est juste incroyable.
Brillante.
Ah, qui est juste extraordinaire. Et. Je vais faire un petit point sur Agatha Christie pour revenir sur quelques anecdotes et puis sur sa vie. Celle qui est appelée la reine du crime. Elle est née en 1890 en Angleterre et elle n'a pas tout de suite écrit. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été enrôlée comme infirmière bénévole pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, elle est devenue pharmacienne. Et si vous connaissez évidemment les romans ou les adaptations, pour les poisons et les médicaments, c'est un peu sa signature. Et donc c'est là qu'elle a appris toute cette armada de poisons et de choses pour ses crimes et pour ses meurtres. Et ce qui est fascinant, c'est que Agatha Christie, elle arrive quand même à créer des puzzles géants. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que j'ai beau lire ou regarder mais 20 fois une histoire ou un crime, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, jamais personne ne peut deviner ce qui va se passer à la fin. C'est la reine des retournements de situation, des romans qui s'écrivent et dont on peut pas connaître la fin, et qui est absolument fascinante. Et donc... En réalité, Agatha Christie, le premier personnage qu'elle crée, c'est Hercule Poirot.
Elle faisait pour construire ces histoires de polar?
Mais dis-moi tout.
Elle partait de la fin. C'est-à-dire qu'en fait, pour être sûr que ce soit cohérent et qu'on arrive au bon final avec le bon puzzle, elle prenait la fin et elle remontait pièce par pièce pour arriver au début de l'histoire. Parce que sinon, elle se dit, on se perd en détail, on se perd en truc, et après, on rafistole le truc. Donc, elle faisait en sorte que ce soit très cohérent et elle partait finalement du dénouement pour pouvoir remonter jusqu'au début.
Et puis, quelque chose qui n'est pas incohérent non plus, dans le sens où, en fait, on n'en a jamais quelque chose qui paraît farfelu. C'est ça qui est génial, parce qu'on peut lire plein d'histoires policières, regarder plein de séries policières. Des fois, en fait, le résultat, il tombe à la fin. On se dit, OK, bon, bah là, en fait. On nous a pris, on s'est moqué de nous. Voilà, c'est ça. On nous a pris pour des jambons, on s'est moqué de nous. En réalité, non, en fait, tout est construit, tout est imaginé et c'est absolument fascinant. Et petite anecdote, parce que Agatha Christie, c'est l'autrice la plus traduite, après Shakespeare, mais c'est l'autrice la plus traduite dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle est lue, mais dans tous les pays, avec des traductions qui sont absolument énormes. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Et. Petite anecdote, il y a une histoire qui est liée à Agatha Christie qui a secoué l'Angleterre. Ça s'est passé en 1926.
On a des coupures de presse, on va les voir.
Ah, apparaître. Formidable. Et c'est la disparition d'Agatha Christie. On est en 1926 et Agatha Christie a subi des... Enfin, évidemment, il y a des choses qui ont été très difficiles dans sa vie. Elle a perdu son père. Il y a son mari qui a été soupçonné d'infidélité, dont elle découvre la maîtresse, elle connaît son nom, etc. Donc, il se passe tellement de choses en peu de temps dans sa vie. Et un jour, elle disparaît. Et pendant 12 jours, aucune trace d'Agatha Christie. Sa voiture est laissée à l'abandon. On retrouve sa voiture ouverte comme ça, au bord d'une falaise. Personne ne sait où elle est. Et elle va finalement être retrouvée, mais après des brochures, enfin c'était absolument fou.
Ça a fait la une de la presse.
Ça a fait la une de la presse.
On va le voir, je crois que c'est la prochaine.
Bah, pendant les 12 jours. Et tout le monde cherchait Agatha Christie. Et tout le monde se disait, alors, ça se trouve, c'est l'autrice s'est suicidée, ou alors elle a été enlevée, parce qu'elle était quand même très connue à cette époque-là. Ou est-ce que c'est pas un coup de pub pour son prochain roman, parce que, évidemment, disparition, enquête, etc., ça résonne avec son univers. Et bah, finalement, on l'a retrouvée dans un hôtel, sous un faux nom, sous le nom de la maîtresse de son mari. Et elle a finalement été retrouvée, mais en fait, dans des interviews, tout le monde lui a toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez disparu ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 jours ? Elle n'a jamais donné la réponse. Mmh. Et c'est un mystère qui reste toujours actuel aujourd'hui.
Ce qui est dingue quand on connaît Agatha Christie, c'est que c'est le paradoxe. Tu parlais tout à l'heure de la version de David Suchet. Mmh. Elle détestait la télévision. C'est-à-dire qu'elle ne voulait surtout pas que ce programme arrive en télévision, ses livres arrivent en télévision. Je pense qu'elle aurait été changée d'avis certainement avec l'adaptation de Suchet, mais elle s'est battue pendant des années. C'est pour ça qu'elle s'est surtout battue pour que ça arrive au cinéma et qu'il y ait de très très grandes adaptations d'Agatha Christie au cinéma. Je pense évidemment à celle avec Peter Ustinov dans Mort sur le Nil notamment, qui l'a incarné de manière brillante.
Le crime de l'Orient Express.
Avec Albert Finet, c'est Sidney Lumet qui réalise. Il y a une distribution qui est hallucinante. Ah oui. C'est vraiment les deux meilleurs. Je vous conseille plutôt de redécouvrir ceux-là et de laisser tomber ceux de Kenneth Branagh qui sont quand même assez dispensables, je trouve. Mais ça, c'est un avis personnel. Et puis, il y a eu aussi pas mal d'adaptations d'Agatha Christie ensuite à la télévision, avec notamment, je pense, un drame en trois actes avec Tony Curtis. Au cinéma, on se souvient, il y avait eu aussi Le miroir se brisa avec Elizabeth Taylor ou Angela Lansbury. Et puis, aux télévisions, à nouveau, Meurtre au champagne. Et ça, c'est une petite archive que nous a dégoté Arnaud, un petit extrait de Meurtre au champagne. On retrouve bien le sel des séries policières des années 80, mais avec la touche Agatha Christie un petit peu.
Oui, on est dans un mélange de soap opéra avec Agatha Christie et puis la touche des années 80. Quoi. Et ce téléfilm est passé de temps en temps à la télévision et pareil, il nous manque, il faudrait que ça sorte. Ça s'appelle Meurtre au champagne parce qu'évidemment, c'est tiré d'un livre d'Agatha Christie. Et donc l'histoire, c'est qu'une dame très célèbre est empoisonnée au champagne, comme son nom l'indique. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle boit dans sa coupe, mais tout le monde a bu avant. Donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle ? Et donc là, je vous ai mis l'extrait où ça se passe très mal pour elle.
Ouais, ça va mal se finir. Ça va mal se finir.
Regardez bien le jeu des acteurs, ça vaut tout l'or du monde.
On a l'impression d'être dans Dallas avec Agatha Christie, quoi. Non, regardez.
Les plus heureuses de ma vie.
À Rosemary.
Oui, à Rosemary.
À Rosemary.
À Rosemary.
Merci. Et maintenant, à mon tour, je voudrais porter un toast à toi, George. Tu es beaucoup plus que je ne mérite. Je veux te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, y compris ce soir. À Georges.
À Georges.
À Georges.
Ah.
Elle est morte.
Oui, j'étais sûr.
Rosemary.
Excuse-moi parce que vu comment elle joue et les bruits qu'elle fait, j'ai l'impression de me retrouver il y a 10 minutes. Je vérifie ce que vous avez mis dans mon truc parce que ça sent mauvais. Je le sens mal. Non, c'est bon, il y a pas.
Non, mais l'arsenic est indétectable.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié. C'est le cyanure, je crois, qui est indétectable.
Cyanure, ouais, bon. Ça t'embêtera plus au bout d'un moment.
Non, c'est bon. je comprends mieux ce qui est arrivé à Marion Cotillard dans Batman. Bon voilà, une des adaptations, il y en a eu beaucoup à la télévision, et des beaucoup plus réussies. D'ailleurs, j'attire votre attention sur TF1+, je vous conseille de voir la formidable adaptation de Ils étaient 10, qui date d'il y a quelques années seulement, en 3 ou 4 épisodes d'une heure. On avait rarement adapté de manière très réussie l'ancien roman qui s'appelait Les Petits Nègres à l'époque, et Ils étaient 10, ils en ont fait une formidable réécriture. Je vous conseille vraiment de la découvrir, c'est génialissime, et ça passe toujours sur TF1+.
Et en réécriture, je voulais juste parler de... Alors du coup, les BD qui sont géniales à découvrir, parce que vraiment, les adaptations sont folles. Et il y a une autre adaptation qui s'appelle 10 de Marine Carteron, si je dis pas de bêtises, et que j'avais lu ado et assez jeune, qui est une adaptation un peu plus moderne de 10 étaient 10, d'Agatha Christie, où on suit en fait, une flopée de jeunes qui partent sur une île. Et là, il y a plein d'adaptations qui existent, soit la version effectivement avec des jeunes qui partent et il se passe des choses étranges, ou la version télé-réalité qui a été faite avec des caméras qui sont partout, et c'est un peu un principe de télé-réalité, et puis finalement, des gens sont tués dans ce manoir sur cette île, et on va découvrir la vérité. Mais très sympa, franchement,
ça m'intrigue.
Vraiment bien.
Ça reste très moderne, hein. C'est vrai qu'on voit que voilà, ils ont quasiment inventé tous les codes de ce qu'on peut voir aujourd'hui, et sublimé plein de choses. Ouais.
Continuons justement avec une adaptation pour notre séquence de téléspectateurs que n'aurait pas renié Agatha Christie, certainement, parce que c'est très inspiré de son univers. Il y a un jeu de société qui est évidemment très très connu, celui où il faut découvrir qui a tué le docteur Lenoir, dans quelle pièce, avec quelle arme du crime, sur un ressort très fort d'Agatha Christie. C'est le jeu Cluedo. Ça a donné naissance à un film en 1985, avec Tim Curry notamment et Christopher Lloyd, qui est sorti au cinéma, dont je crois que je vous ai déjà parlé dans cette émission. Et puis, un format anglais, adapté en France, en jeu télé. C'était dans les années 90, 1994, je ne me trompe pas, avec une distribution alors improbable, et je vous en parle dans un instant, mais vous allez voir dans le générique, vous allez voir la distribution, et vous allez voir que c'était inimaginable d'avoir tous ces gens-là réunis dans ce jeu-là. Une espèce de croisement entre donc le Cluedo et les 5 dernières minutes, et ça donnait ça, regardez.
Enquête avec France 3 et le magazine Télé Loisirs.
Et là, on voit à la fin le plateau télé, parce qu'évidemment, l'idée, c'était que vous aviez donc une fiction, ça durait à peu près 45 minutes, dans laquelle, effectivement, il y avait la mise en place des personnages, la mise en place de, jusqu'à la scène de crime. Et puis, vous aviez ensuite une enquête qui se déroulait en plateau. Vous aviez des candidats qui faisaient face aux 6 suspects que l'on connaît du jeu. Et puis, on devait formuler une accusation pour savoir qui avait tué tel personnage, qui était joué souvent par un guest. Marie-Ange Nardi, notamment, l'a joué avant de devenir animatrice de l'émission. Et puis, à la fin, il y avait une séquence, là, à nouveau d'archives, qui présentait la solution. Et puis, si vous avez gagné, vous gagnez le jeu. Et puis, voilà, ça s'est amené comme ça.
C'était quoi votre personnage préféré dans le Cluedo?
Moi, je me souviens que j'étais souvent le docteur Olive, moi, je crois.
Moi, je prenais professeur Violet, parce que c'est ma, violet, ouais. C'est ma couleur préférée, Violet, donc voilà, ça se passait
pas. C'était collé une moutarde à chaque
fois. Ouais, on aurait pu penser, mais non.
Non. J'ai pas le monocle. Quoi.
J'ai pas le
monocle. Il faut savoir quand même qu'on est, nous, les franchouillards, on prononce quand même très très mal le nom de ce jeu, parce que c'est Cluedo en anglais. Clue, c'est un indice, tu sais, I don't have a clue.
Je crois que chez eux, c'est Clue, d'ailleurs, le titre original.
Ouais, c'est Cluedo, et Do, c'est faire, donc c'est chercher des indices, faire des indices, c'est tout. Tout s'explique.
Ce serait drôle d'arriver. Nous, j'ai un clou doux.
Oui, un clou doux.
Continuons un petit peu à se balader dans cette adaptation d'œuvres de la littérature avec une série, cette fois-ci. Tu nous en parles juste après. Et on continuera ensuite à dérouler. Regardez. Deux ans de vacances, on avait voulu évidemment dans cette émission avec Arnaud et Lola vous proposer aussi sortir des sentiers battus, des adaptations traditionnelles que l'on connaissait, et là moi c'est vrai que c'est une série que je n'ai jamais vu celle-ci.
Ah oui, il faut la voir, c'est vraiment pour les enfants qui l'ont vu à l'époque dans les années 80 sur TF1 notamment, ça fait rêver et c'est tout en, dans l'idée des livres, des romans exotiques, c'est-à-dire qu'on partait à l'aventure, comme Robert Louis Stevenson avait fait pour L'île au trésor. Il y en a plein, donc, où l'enfant comme ça est embarqué, ça rappelle aussi Silas et Jack Holborn, pardon, sur le bateau. Et donc là, c'est un groupe d'enfants qui se retrouvent comme ça embarqués, et puis c'est tiré donc de Jules Verne, dont Lola va nous parler, et puis c'est cette musique, cette camaraderie, et faire face ensemble à l'adversité, ça rappelle aussi sa Majesté des Mouches, enfin, il y a plein de choses comme ça, des enfants livrés à eux-mêmes qui doivent agir comme des adultes finalement, mais peut-être garder leur âme d'enfant et donc faire mieux que ce qu'un adulte ferait. Voilà, très très grande série à revoir, bien sûr.
Et adaptée donc de Jules Verne, qui est l'un de nos auteurs fantastiques, qui prouve qu'effectivement en France, on a toujours été frileux à faire du fantastique au cinéma, à la télévision, alors qu'on a nos plus illustres auteurs qui s'en est largement emparés.
Bah, lui, honnêtement, il est considéré comme le père de la science-fiction, dans le sens où il a été capable de créer des univers qui sont uniques. Il faut rappeler quand même qu'on peut lire, il y a plein de livres qui sont incontournables, 20 milieux sous la mer, Le tour du monde en 80 jours, il y a plein d'œuvres qui sont absolument incontournables, qui sont même adaptées, il y a des versions pour les enfants, en fait, pour découvrir un peu plus jeunes. Mais c'est extraordinaire de découvrir la précision qu'il a mis dans ces créations-là, dans cet univers-là, parce que faut rappeler quand même qu'il est né en 1828 à Nantes et qu'il n'était pas du tout, alors, ni de formation, il n'avait pas voyagé, c'était pas un grand voyageur. Il y a une anecdote juste petit où il était tout petit, il a voulu embarquer sur un bateau, il partait vers l'Inde et il voulait monter dans le bateau, donc il s'est caché, etc. Son père l'a retrouvé in extremis en disant mais qu'est-ce que tu fabriques là. Il l'a attrapé juste avant que le bateau parte. C'était sa seule aventure, c'était son seul moment de gloire d'aventure, parce que en réalité, même s'il a fait les plus grands récits d'aventure et de science-fiction, etc., c'est pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé. En fait, il étudiait les cartes, il étudiait des récits de voyageurs, il étudiait des récits de personnes qui sont parties, alors, soit des créateurs, on va dire, sur des machines extraordinaires qu'on voit dans ses œuvres, ou des personnes qui sont parties à l'autre bout du monde. Mais il était plus dans le côté étude de ces voyages-là que dans le fait de les vivre vraiment. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il réussissait chez lui et à partir de ce qu'il avait entendu, etc., à récupérer ça et à faire une matière littéraire qui est absolument géniale. Parce que en étant au milieu du 19e siècle, non seulement il a parlé de tous les progrès scientifiques qui arrivaient au 19e, ce qui est donc une matière qui est géniale pour comprendre ce qui s'est passé au 19e, mais ce qui est fou aussi, c'est de comprendre à quel point il était en avance sur son temps, créer des machines comme ça, imaginer la rapidité justement d'un voyage autour ou par la mer, alors que à cette époque-là, c'était pas du tout ni rapide ni pratique. Et c'est fou de découvrir cet univers-là, se dire qu'il a réussi à imaginer le monde d'après avec brio et avec une précision qui est absolument extraordinaire.
Ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même l'un de nos plus grands auteurs qui a imaginé plein de choses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu des adaptations, mais on aurait pu en attendre beaucoup plus qu'il y en a eu. Il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. C'est ça qui est dingue.
Bah effectivement, et en plus, je me dis que c'est une matière qui est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est beaucoup récupéré en ce moment, ou depuis quelques années, mais dans les collèges ou des lycées, on fait lire Jules Verne en disant, par exemple, un travail pratique qu'on va mettre en place, bah, vous refaites tout le... Je sais que ma sœur avait fait ça au collège, vous refaites tout le vaisseau de 20 milieux sous les mers, ou de... Enfin, vous refaites tout cette construction de la machine, etc., ce qui est génial, parce que non seulement... On étudie chaque détail de ce qu'il a mis en place. Et c'est une matière qui serait folle pour une adaptation.
Mais qui demande du fric. Série.
Mais qui demande de l'argent. Parce qu'effectivement, ce qu'il imagine, c'est un imaginaire qui est juste géant.
Et il y a quand même un studio qui s'y est penché sur l'univers, notamment de ces grands auteurs. On parlait du Japon tout à l'heure, qui a adapté beaucoup de romans. Mais il y a un studio en Espagne, notamment en coproduction avec le Japon, qui s'y est beaucoup intéressé. C'est le studio de BRB. BRB a adapté évidemment les grands noms de la littérature. Il a adapté Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires en version canine, si vous vous souvenez bien. Mais il a adapté aussi Jules Verne. Avec le tour du monde en 80 jours, ça a donné une œuvre qui est culte pour cultissime. Tous les enfants des années 80. Mmh. On en profite pour embrasser Michel Barouille qui chante le générique parce que le générique est culte. Moi, j'adorais ce dessin animé. Je l'ai pas vu tant que ça finalement, mais je l'ai, à chaque fois que je l'ai vu, j'étais fasciné. Mmh. Transformer tous les personnages du roman de Jules Verne en félins, c'était le pari de ce dessin animé. Tu ne le connais pas, Lola ?
J'ai quelques mini-indices, mais très peu.
Voyons voir, on en reparle avec Arnaud dans un instant. Le tour du monde en 80 jours, à voir ou à revoir sans se lasser, regarder.
Et en 80 jours, je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur.
J'y passe partout, j'fais un peu de tout. Moi, j'suis petit con, partout je les suis.
Je suis Romy, princesse hindoue et Foggen, l'homme de ma vie.
Je suis à Sog et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur.
80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais on fera tout pour être les premiers. 80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet de la planète.
Qu'est-ce que... je ne m'en lasse pas. Je pense que si vous lancez un karaoké générique du dessin animé, celui-là fait partie des pole positions. Juste deux noms que je voudrais citer avant qu'on en reparle avec Arnaud. J'ai parlé de BRB tout à l'heure, c'est Claudio Bienborn, qui est le créateur, producteur de ces grands studios, qui est à l'origine de ces adaptations de romans et pour la télévision, en Espagne, notamment coproduction avec le Japon. C'est un peu le Jean Chalopin espagnol. Je vous remettrai dans le billet de ce replay. Nous avions eu le plaisir, il y a quelques années, pour notre émission Le Générique TV Show, de recevoir Claudio Bienborn. On s'est entretenu par téléphone. C'était génial. Et puis, deux compositeurs à la manette, dont on va dire peut-être un mot.
Ouais, Guido et Maurizio De Angelis.
Exactement.
Donc, c'est Oliver Onions, très connu, qui ont fait le générique de Sandokan. Ils en ont fait une tonne.
Ils ont beaucoup travaillé pour le cinéma, avec notamment Terence Hill et Bud Spencer.
Ben oui, voilà, bien sûr, c'est le cinéma italien. Ce sont de grands compositeurs, et même chanteurs, ils interprètent aussi. Donc voilà, Le Retour du Saint, ils en ont fait une liste pas possible. Il y a même le générique de Cosmos 99 qui a été refait par eux, mais pour l'Italie. Enfin voilà, c'est des sommités dans la composition.
Ah, j'adore ce qu'ils font.
Ouais.
Et là aussi, je vous mettrai le lien, on a eu le plaisir de discuter avec Maurizio De Angelis il y a quelques années. Et c'était un vrai plaisir.
Oui.
Parce que voilà, ils ont bercé l'univers et l'imaginaire de plein d'enfants. Mais ce dessin animé-là, il faisait rêver tout le monde, quoi.
Ah oui, bien sûr. Et puis.
Les transferts.
Ouais, non, mais oui, le méchant.
Le méchant.
Avec son œil
qui clignotait, qui s'allumait.
Non, et puis là, bah, c'est génial parce que c'est. Rappelez-vous la fin, bon, on va spoiler le livre aussi, mais allez, bon, ils arrivent avec le décalage horaire, ils arrivent une journée en avance en fait, et ils pensent qu'ils ont perdu alors qu'ils ont 24 heures d'avance. Donc, c'est fabuleux, ça crée une sorte de tension jusqu'au bout où on a peur pour Phileas Fogg qu'on aime et que.
C'est, je crois, pardon, mais je crois que c'est même une heure en avance.
Ah, une heure en avance peut-être, oui.
Il me semble que c'est une heure juste.
Enfin, il y a le décalage horaire qui joue, oui,
je me souviens. Ça permet de voyager pour des enfants qui regardent. Mais bien sûr, c'est ça. C'est trop bien.
Et puis, voilà, c'est ça. Et puis,
il faut qu'on lui trouve. Hein. Et, je suis sûr qu'elle va aimer.
Ah oui, ah, il faut que tu vois ces épisodes.
Et... Je suis très fan des adaptations animales de... des... avec, par exemple, on va en parler, mais Sherlock Holmes ou des trucs comme ça.
Oh, ah, c'est génial.
Bah, là, les trois mousquetaires, c'est rigolo aussi parce que le titre espagnol, c'est Los Tres Mosqueteros. Parce qu'un perro, c'est un chien en espagnol. Et donc, au lieu de faire Mosqueteros, ils ont fait Mosqueteros.
Les... Génial, l'adaptation.
Et donc, l'adaptation aussi est fabuleuse. Voilà, enfin, tout donne envie de relire l'œuvre et puis après de se replonger dans ça. Ouais. Jules Verne, il est encore très. Enfin, il a marqué, je pense, tous les auteurs encore. Il y a un bout de Jules Verne un peu partout. Un clin d'œil dans Retour vers le futur 3, quand Doc voyage dans sa locomotive. Vous vous souvenez qu'il est dans. C'est l'époque où il est en western, puis après il arrive à se sauver avec l'institutrice qu'il a sauvée. Finalement, il l'épouse et ils font des enfants. Ses deux fils s'appellent Jules et Verne dans Retour vers le futur. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça. Il a beaucoup d'adaptations de Jules Verne aussi. Il y a eu Mathias Sandorf, qui est une coproduction. Qui est donc aussi un livre de Jules Verne. Et c'était un clin d'œil à Monte Cristo, au conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et c'était à titre posthume, le livre lui avait été dédié. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se retrouvent. Et puis, il y a aussi Michel Strogoff.
Ah ouais.
Grande série pour la télévision.
Grande aussi. Série voilà, qui a marqué tout le monde avec le héros aveugle. Et...
Dont la musique était signée Vladimir Kosma.
Voilà, donc on pourrait faire tellement d'émissions autour des adaptations littéraires à la télé, mais on se rend compte que, quoi qu'il arrive, ça nous donne aussi une certaine culture générale. Voilà, dont on peut être fier, c'est français.
Mais soyons un peu plus pragmatiques et terre à terre, parce qu'il faut quand même qu'on mange et on a besoin de pub pour ça.
Ah.
On a besoin de publicité. Et pour la publicité, bah, on se dit que la télévision a peur de rien, donc pourquoi pas même utiliser dans la publicité les adaptations d'œuvres littéraires. Vous vous souvenez peut-être d'un certain Robinson, voilà, vous voyez bien Crusoe.
Oui.
Bah, même la pub s'en est emparée. Alors avec le meilleur comme le meilleur. Regardez, vous allez adorer.
Ainsi que ma sœur.
Ah non, merde.
André.
Merde.
Ah non, c'est pas ça.
Ah non, c'est moi qui ai, pardon. Autant pour moi. J'ai commis une erreur, les amis.
You savonned.
La publicité va arriver dans un instant. J'ai savonné, c'est pas grave, ça arrive. C'est quasiment du direct. On va revenir à la pub dans un instant. Parce que la publicité va nous permettre de nourrir un peu notre propos. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur un grand auteur de littérature. C'est Alexandre Dumas, l'un des grands feuilletonistes du 19e siècle. Restez avec nous, la pub, je sais que vous l'attendez avec impatience, elle va arriver. Mais parmi tous les choix sur lesquels on s'est porté, tu as choisi...
Oui, Joseph Balsamo, qui est donc un livre aussi donc, d'Alexandre Dumas et qui a été joué par Jean Marais. Et là, on regarde cet extrait.
On regarde l'extrait ? Ouais, et tu nous en parles après.
Ainsi que ma sœur.
Votre Altesse Royale fait trop d'honneur au château de Tavernet. Une aussi modeste demeure de voir tant de noblesse et de beauté.
Je sais, monsieur, que je suis chez un vieux soldat de France, et je suis venu rendre hommage à son courage et à son dévouement. Je sais aussi que le lieutenant de Tavernet aime tendrement sa sœur.
C'est une grande affection mutuelle, depuis notre plus tendre enfance.
Dans ce cas, mademoiselle, je ne voudrais pas être la cause de votre séparation. Si vous le voulez bien, monsieur, votre fille me suivra à Versailles. En qualité de demoiselle d'honneur.
Eh ben écoutez, suivons-nous à Versailles.
Mais oui, est-ce que vous l'avez reconnue, donc une grande dame de la télévision aussi, qui a beaucoup marqué nos petits écrans, notamment sur Antenne 2. Donc cette
reine, on a une photo qui arrive derrière.
Elle va apparaître, voilà. Donc c'est Patricia Le Sieur qui a été une speakerine
de la télévision
avec Marie-Ange Nardi dont tu parlais, Virginia Crespo. Et voilà, donc elle a fait une carrière, elle a eu une carrière de comédienne aussi, plutôt une belle carrière. Elle était aux côtés de Jean Marais. Donc Joseph Balsamo, si vous vous souvenez de l'histoire, bah, c'est le comte de Cagliostro, en fait. Donc, il était capable d'hypnotiser comme ça les gens et de leur faire faire des choses contre leur gré. Et bien sûr, il s'infiltre dans la cour pour essayer de monter au plus haut. Et voilà, cette série est tout bonnement géniale, comme le livre, évidemment. Et j'avais envie de vous mettre ce petit clin d'œil parce que voilà, on voit souvent des têtes comme ça qui ont débuté. Et on s'est dit, mais tiens, dis donc, je la connais celle-ci.
Je la connais celle-là, je la connais. Elle est effectivement comédienne aussi en même temps que.
Oui, elle a fait plein de choses. Et après, bon, ben, on l'a plus connue en speakerine parce qu'elle était là sur nos écrans quasiment tous les jours, un peu comme Fabienne Egal ou. Evelyne Leclerc, mais là c'était sur Antenne 2. Et ouais, Joseph Balsamo, bah, ça a donné naissance à Edgar de la Cambriole, le dessin
des animés des années 80.
Voilà, et puis toutes ces choses qui ont quelque part donné naissance à l'imagination d'autres auteurs.
Et qu'on porte encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu le film Lupin 3 qui est sorti au mois de mars dernier au cinéma, qui est toujours l'héritier de cette grande tradition. Et dites donc, il faut quand même qu'on mange. C'est peut-être le moment d'avoir recours à la pub. Et là, vous savez pas quoi ?
Non.
Mais la pub, elle s'est aussi emparée des personnages.
Attends, c'est impossible.
Est-ce que tu connais un certain Robinson ?
Oui, tout à fait.
Et ben voilà. Et ben Robinson, pour le meilleur comme pour le meilleur, finalement. Ah, ben, quand on tient une main sur le nard, on se raccroche. Hein, regardez.
Mais qu'est-ce que j'apprends ? Il y a maintenant un tirage du loto le samedi aussi. Avec le même bulletin, on peut jouer pour le mercredi et pour le samedi. T'as bien compris ? Vendredi !
Il me demande si j'ai compris.
Mais vendredi, il y a longtemps qu'il a compris que c'était le mercredi et le samedi.
La preuve.
Eh bien oui, le loto maintenant, ça peut rapporter gros.
Deux fois par semaine.
Pauvre Robinson, il était.
Pauvre Robinson. Bah, pauvre vendredi aussi.
Je sais pas si ça passera encore aujourd'hui.
Ah, je suis pas sûr.
C'était une époque aussi où on se permettait des choses parce que voilà, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Moi, je trouve que c'était plutôt inclusif qu'au contraire moqueur.
Totalement. Puis c'est joli et puis c'est assez frais, c'est ça qu'on aimait.
Roman de William Defoe, hein, qui a écrit beaucoup.
Vendredi ou la vie sauvage.
Ouais, vendredi. Voilà, et Robinson Crusoe. Et puis Moll Flanders aussi. Enfin, donc, c'était à l'époque aussi où l'Australie était une terre comme ça lointaine et en Angleterre on laissait le choix aux gens donc on les envoyait pas au bagne comme nous en France à Cayenne ou ce genre de choses, on leur disait soit tu es donc les criminels on va dire, les délinquants, on leur disait soit tu restes en prison en Angleterre ou alors tu dégages de chez nous et tu vas en Australie. Donc en fait beaucoup d'Australiens aujourd'hui sont des descendants de gens qui étaient
Je crois que c'est exactement ce qui se passait en France avec la Nouvelle-Calédonie.
Oui aussi,
qui a été peuplée comme ça Je sais plus si c'est dans cette émission que vous en avez parlé, mais il y a un roman qui est adapté d'un fait divers qui est survenu au moment des guerres napoléoniennes, pas des guerres napoléoniennes, mais de la Commune de Paris et de la chute de Napoléon, qui est signé Jean Tellet et qui a signé un roman qui est sorti il y a quelques années maintenant sur un fait divers où victime d'un délire collectif dans un petit village du sud-ouest de la France qui s'appelle Hautefaille. Je vous en avais parlé et où on a décidé de peupler après la Nouvelle-Calédonie avec tous les gens qui étaient. On aurait condamné à mort sinon 600 personnes, ce qui était improbable. Je vous invite à découvrir ce grand roman de Jean Tellet qui raconte ce fait divers incroyable où un village pris d'un délire collectif s'est mis à littéralement bouffer un notaire présent dans la ville et qui avait le malheur de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Il y a toujours un projet d'adaptation de cinéma, mais je ne sais pas comment ils vont s'en sortir les pauvres. Avant de terminer cette émission et de revenir sur notre dernier auteur qui sera Conan Doyle, on recevait il y a quelques semaines le fils de Jacques Dutronc, évidemment, et Jacques Dutronc a fait partie des grands acteurs et grands chanteurs qui ont interprété ces adaptations de télévision, avec notamment celui qui est peut-être le plus grand des voleurs.
Ouais,
mais c'est un vrai gentleman.
C'est un vrai, voilà. Mais il offre des fleurs quand il détrousse une fille.
Une femme.
Une femme.
Une femme. Ouais, regardez, c'est à peu près ça, regardez.
C'est à peu près ça.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos femmes. Menacer une âme quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs, gentleman cambrioleur est un vrai seigneur, il vient chez vous la nuit. Sans déranger votre sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir.
Ça lui correspond tellement bien.
Le bel organe qu'elle a. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avant la fin de la saison avec Lola. Elle chante magnifiquement bien. Elle a un petit
lèvre en solitude pour la fin
avec
de la
saison.
Ah ouais, Arsène Lupin, évidemment.
Oui, grand. grande adaptation, et puis avec Georges Descrières aussi, forcément, qui a joué aussi après dans Sam et Sally. Enfin voilà, il y avait comme un alignement des planètes pour ce genre de série qui fait que on les regarde, on les écoute, on les aime.
Toujours disponible sur l'île de la Madeleine, hein, si vous avez envie de le découvrir. La
Roger Carrel qui était dedans. Enfin voilà, on pourrait faire toute une émission spéciale sur Arsène Lupin, qui est encore une fois adapté, hein, avec Lupin et Omar Sy dernièrement, et puis plein de choses. Et le personnage de Maurice Leblanc a laissé comme ça une empreinte. Ça me fait penser à un film dont je voulais parler tout à l'heure. Il y a eu un film il y a quelques années, une vingtaine d'années, qui s'appelait La Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Je voulais en parler aussi, avec Sean Connery. Bon,
avec Sean Connery, voilà. Et chaque héros de la littérature de l'époque était repris. Et ils avaient prévu de faire un 2 où il y aurait Arsène Lupin notamment dedans. Et...
En fait, il y avait un sous-marin qui était piloté par le
Captain Nemo.
Captain Nemo, et t'avais Dorian Gray qui était dedans, t'avais tous les personnages.
La femme vampire, Nina Harker, et puis Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est aussi issu d'un roman de Robert Louis Stevenson qui a écrit L'île au trésor. Enfin voilà, ce sont des personnes qui ont vraiment marqué l'inconscient collectif, on va dire, hein, pour aller jusque-là.
Parmi les adaptations les plus nombreuses au cinéma, au théâtre, il y a cette dernière adaptation dont on va parler avant de refermer cette émission. C'est un personnage iconique. Je crois que c'est l'un des plus adaptés au cinéma ou à la télévision. On vous en citera des exemples dans un instant. Mais pour faire le pont avec une autre émission où on en parlait, où on parlait de Miyazaki, voici l'une des très belles adaptations en dessin animé du personnage de Sherlock Holmes. On en reparle dans un instant avec Lola et avec Arnaud. Regardez.
C'est mon dessin animé préféré.
L'élégance même.
Ah ouais.
Ça fait du bien.
Dieu.
Ça
beauté, fait du bien. Élégance.
Avec la belle voix d'Amélie Morin.
Oh la voix de Candy, évidemment.
Qui chante. Ouais.
Beaucoup d'adaptations, évidemment, on va en parler, mais de Sherlock Holmes. Moi, je vous. Évidemment, il y a celle de Benedict Cumberbatch, Sherlock, qui date de quelques années. Mais moi, je vous conseille vraiment celle de Jeremy Brett en 1984 par le studio Granada en Angleterre, qui est formidable.
Ouais. Oui, il y en a eu plein. Et qu'est-ce qu'on aime le revoir à chaque fois.
Et son dessin animé là est magnifique.
Mais oui, et puis il y a une élégance britannique, un flegme comme ça, et puis quelque chose de brillant. Et puis Sherlock Holmes, c'est quand même un personnage torturé, hein, parce que dans le livre, il est cocaïnomane, il est complètement parano, il est cinglé, enfin il est borderline.
On voit vachement dans l'adaptation, je l'ai regardé hier justement, mais avec Robert Downey Jr.
De Gary Ritchie.
Vraiment au bout du rouleau. Ah bah, je te conseille. Traîner dans les clubs.
Ah bah, si tu trouves que là il est dépressif, je te conseille de regarder celle de Jeremy Brett. C'est encore pire. Il est vraiment au bout du bout. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on le découvre aussi après le mythique chute de Reichenbach. Mm-hmm. Il est vraiment là, vraiment en dépression totale. Quoi.
Ouais.
Quelque chose à ajouter sur Sherlock Holmes
Non,
avant qu'on parle de Conan Doyle, justement.
Sur Conan Doyle,
avec toi.
Sir Arthur Conan Doyle.
Sir.
Est-ce qu'il a été.
Forcheur.
Forcheur.
Arrête, je m'en vais.
Sir Arthur Conan Doyle, parce qu'il a été anobli en 1902. Alors, il n'était pas du tout écrivain à la base. Il a été lui aussi. On parlait d'Agatha Christie qui a été pharmacienne, etc. Lui, il a été médecin de formation. Donc, il a fait des études de médecine. Son père le destinait à ces études-là. Et finalement, il s'est mis à écrire. Et est-ce que vous savez d'où vient le personnage de Sherlock Holmes ?
Non.
En réalité, c'est un professeur qu'il avait quand il a suivi ses études de médecine, quand il a commencé à exercer, qui s'appelle Joseph Bell, et qui est un homme qui l'a inspiré parce que, en fait, il était fascinant. Tous les élèves étaient fascinés par lui. Il arrivait, quand il y a un patient qui arrivait ou quelqu'un qui arrivait malade, il savait exactement chaque détail de cette personne, par son accent, par sa manière de marcher, par ses vêtements. Il avait exactement le diagnostic de cette personne. Et donc, à force de regarder cet homme, Joseph Bell, qui était fascinant et qui connaissait tous les détails juste en regardant et en analysant, eh ben, Sir Arthur Conan Doyle a décidé de créer ce personnage-là de Sherlock Holmes. Et honnêtement, bon, c'est un personnage qu'il a suivi pendant très 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 longtemps et qui a même fini par le desservir, mais dans le sens où Arthur Conan Doyle, au bout d'un moment, on a marre de ce personnage-là, parce qu'il essaye d'écrire d'autres romans, il a écrit d'autres romans historiques qui n'ont pas forcément été lus, et il n'en peut plus que chaque fois qu'il arrive quelque part, on lui parle de Sherlock Holmes.
Ben oui.
Donc il décide, dans un roman, de tuer Sherlock Holmes.
Les chutes de Reichenbach.
C'est ça. En disant, c'est bon, j'en ai marre qu'on parle de ce personnage-là, et je vais le tuer. Très mauvaise idée, parce que tous les lecteurs lui ont écrit mais des lettres et des lettres et des lettres en lui disant « Mais vous n'avez pas le droit de tuer Sherlock Holmes, c'est pas possible, on va faire comment sans ce personnage-là » Il y a même des gens qui partaient des brassards de deuil par rapport à la mort de ce héros-là. Et donc, il a décidé de le faire ressusciter en disant « Pardon, je suis désolée, je vais continuer cette série-là. » Et donc, ça l'a suivi pendant très longtemps, et c'est sans doute un des personnages qui a le plus d'adaptation et qui a traversé autant le monde entier, qui est cette figure même et cette figure type du détective.
Et il a été contemporain d'un fait divers incroyable qui lui a poussé à imaginer que son personnage allait le rencontrer, c'est le Jack l'Éventreur, puisqu'il imagine effectivement un face-à-face entre Jack l'Éventreur et Sherlock Holmes.
Ouais.
Et tout à l'heure, on parlait de Arsène Lupin avec notamment Georges Descrières. Il y a notamment un épisode de Arsène Lupin qui s'appelle Sherlock Holmes, c'est inversé, où on s'ajoute avec ces codes-là. Et puis, la France s'en est emparée aussi avec une série qui s'appelait Mademoiselle Holmes. On imagine que, justement, après Reichenbach, Sherlock Holmes est parti et est allé se cacher en France. Et que là, il a eu une famille. Et donc, c'est cette branche de cette famille qui a donné naissance à ce personnage-là, qui, du coup, s'inspire de ce personnage-là. Bon, ça aurait pu être bien pensé, mais c'est vrai que moi, Daniel Prévost en Sherlock Holmes, j'ai du mal à m'y projeter. Mais bon, voilà.
Il y a aussi une adaptation jeunesse d'un livre qui reprend, alors je ne me souviens plus du titre exact, mais ça fait très longtemps, mais d'un livre qui reprend justement l'enfance. Lupin, Sherlock Holmes et Irène Adler s'étaient croisés et avaient grandi ensemble. Et donc, il y a toute une série comme ça, jeunesse, qui revient sur, on va dire, l'enfance et l'adolescence de ces détectives-là et ces personnages-là fous de littérature.
Il y a eu plein d'adaptations. Il y a aussi Détective Conan Japon, en manga, puis après en dessin animé. C'est un adulte qui rétrécit, puis il s'appelle Conan en rapport avec Arthur Conan Doyle. Il y a plein de choses, et puis le méchant aussi emblématique, Moriarty, a laissé sa marque. Enfin, c'est vraiment, on peut pas y couper, je pense qu'il faut revoir. Il y a ce film aussi, je crois que ça s'appelait Le mystère de la pyramide, avec le jeune Sherlock Holmes de Spielberg, voilà, qui reprennent aussi les codes de Watson et Sherlock, qui se rencontrent quand ils ont 15-16 ans dans la même école en Angleterre. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à
dire.
Puis
des romans qui sont fous, hein.
Mais bien sûr,
Ruban moucheté, si je dis pas de bêtises, c'est juste extraordinaire à lire, franchement.
Et aux États-Unis, en ce moment, je crois qu'elle a été, je sais pas si elle continue, il y a une série sur CBS qui s'appelle Watson, où c'est un drama médical, où Watson a été obligé de partir de l'Angleterre. Alors, c'est une version contemporaine, parce que son ami est mort à Reichenbach, et donc il vient là-bas, il enquête sur des mystères à la Doctor House, et puis il y a effectivement cette toile de fond avec le retour potentiel de Sherlock Holmes. Mais voilà, donc c'est parti de ces nombreuses adaptations.
Ça crée ce schéma aussi du détective et de son associé, ça a installé toutes les bases de ce qu'on retrouve après dans toutes les séries, même des séries policières, etc., qui reprennent ces codes-là.
Bon. Et ça te prend pas une ride. Moi, j'avais adoré dans la version de BBC avec Cumberbatch. C'était quand il recherche le code de l'iPhone et il doit taper Cher en fait, parce que c'est marqué You're locked, et ça fait Cher locked. J'avais trouvé ça fabuleux, quoi. C'est comme quoi tout est encore très présent. Il y a pas de limite à l'imagination. Et voilà.
Tout est possible. Et c'est vrai que là, avec Sherlock, ils avaient fait une belle réinvention.
Ah, ouais.
On arrive quasiment au terme de cette émission.
Déjà,
mais il nous reste quand même notre Solitube.
Ah.
Et là aussi, c'est une adaptation qu'on vous a préparée. Voici Le Solitude, regardez. Et ce qui est bien avec Arnaud, c'est que quand on pense qu'on a touché le fond, on n'est jamais surpris. Il nous a réservé encore mieux. Alors là, je pense que tout le monde va pouvoir s'accrocher la mâchoire.
Oui.
Maxime en régie aussi.
Oui, attention, Maxime.
Vous savez pas à quoi vous êtes prêts. On va d'abord voir la couverture
du 45 tours. J'en parle un petit peu avant, oui, quand même. Je me suis dit, avant de lancer la couverture, je me suis dit, y a-t-il eu des héros extrait de... Donc là, c'est pas d'un... Quoique si, c'est un livre au départ aussi. Et y a-t-il eu des héros qui ont poussé la chansonnette? Alors, il n'y a pas eu de chanson de Robinson Crusoe qui, aujourd'hui, je vais vous chanter Ramona. Mais donc, j'ai trouvé quand même un personnage des années 80 qui a poussé la chansonnette. Au cinéma, et c'est un sosie, évidemment, ce n'est pas le bon, mais voilà, c'est du lourd.
On peut voir la pochette du 45 tours,
regardez.
Regardez
la pochette du maxi 45 tours. Donc c'est un sosie qui s'appelle Wayne Scott, alors ce n'est pas son vrai nom, je vous dirai après qui c'est, mais il chante Rambo et c'est tout un programme, quoi. Voilà, c'est voilà. À la fois autant génial que cataclysmique.
Oui, enfin, voilà. C'est possible. À vous de choisir. Choisissez votre camp, regardez.
Prononcez-vous chez vous.
We're gonna win.
Ça rend vachement la tête. Hein.
Ça
c'est
rend,
dangereux,
ouais.
Ces choses-là.
C'est comme tout de solitude. Hein,
oh là 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 là.
This time we're gonna win. Enfin, pardon.
Rambo,
donc,
Rambo.
Mais, d'où ça sort ce truc-là?
On se le demande.
Alors, on est en plein, donc on est en 1985, en plein dans l'Italo-dance, ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que des musiques comme ça, hop, qui rentrent tout de suite dans Ryan Paris, Dolce Vita, enfin des trucs voilà, qui nous restent en tête complètement. Et ce type-là, alors c'est un ovni, alors c'est pas son vrai nom, Wayne Scott, il s'appelle Joe Gentesi, c'est un acteur qui est donc sosie officiel de Stallone, et il a fait quelques films comme ça où il apparaît et puis il joue le rôle de gros bras. Et qui est derrière cette chanson, cette musique? Eh bien, c'est Jacques Morali et puis Henri Bellolo, c'est-à-dire les producteurs de des Village People.
Ah,
et tout s'explique.
Ah oui, on reconnaît.
Voilà, on reconnaît un petit peu. On se dit mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et voilà, c'est atterrant parce que bon, c'est français, hein, donc il faut revendiquer cette appartenance française.
Non, des fois,
ou pas, mais c'est chacun son.
Oui, voilà, ils sont allés chercher cet acteur.
Déjà, les gens sont en train de dire, c'est à ça que sert l'exception culturelle française.
Non, mais il y a des ovnis complètement, parce qu'il a fait plusieurs passages télé. Là, on le voyait dans l'Académie des Neufs, où il est dans un des cubes avec le sosie d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Ils sont tous les deux dans le cube à répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault. Et il fait quand même une apparition aussi dans le JT d'Antenne 2 officiel de Noël Mamère, où on voit Noël Mamère complètement comme ça, dépité, en train de regarder les Vietnamiens qui l'attaquent. Et enfin, c'est n'importe quoi.
Extraordinaire.
Voilà. Et puis, les paroles, c'est ce coup-ci, on va gagner, je reviens, on va les battre. Enfin, c'est genre, c'est extrêmement revanchard et très mauvais goût de la zèle. Mais qu'est-ce que c'est bon à écouter, quoi.
Le solitude de cette semaine, Wayne Scott Rambo. On va arriver malheureusement au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Mais on avait tout à l'heure évoqué un héros. De la télévision et du cinéma, Tarzan, qui a été interprété et joué par beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai que moi, j'ai choisi de refermer avec notre petite pastille qui s'intéresse aussi à ces moments nostalgiques et cultes pour vous parler d'une série, une version de Tarzan qui est sortie en 1962 à la télévision américaine, qui a cartonné. Hein. Elle a duré, je crois, 4 saisons. Mmh. C'est interprété par un acteur américain qui s'appelle Ron Ely et qui va jouer le rôle pendant 4 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la série est arrivée à plusieurs reprises en France. Et donc, forcément, elle aussi, elle a eu droit à un petit générique français. Et c'est pour ça que je voulais qu'on termine avec un petit générique. Alors, il y a un préambule qui est déjà un peu intéressant. Mais je vous invite à découvrir et à écouter parfois les paroles de la chanson du générique de Tarzan. On va terminer avec ce petit générique. Et on revient juste après avec Lola et Arnaud pour se faire plaisir. Regardez Tarzan de Ron Eli à la télévision américaine. Ça donnait ça.
La jungle, contrée mystérieuse, est la terre de l'inconnu, de la sauvagerie, de la terreur et du danger, au-delà de ce que peuvent imaginer les hommes. Ici, dans l'enchevêtrement secret de la jungle, un enfant fut trouvé et élevé par les grands singes. Le jeune garçon prit le nom de Tarzan et fut plus tard éduqué au sein de la civilisation. Mais ensuite, Tarzan revint dans la région implacable qu'il connaissait si bien. Dans la jungle, des grandes chutes d'eau aux montagnes énormes, du pays des hommes spectres jusqu'aux forêts tropicales illimitées. Ce guépard sait qu'il y a un être qui est plus vif que lui. Ce lion en connaît un plus brave, Tarzan. La force de Tarzan a nul autre égalé. Au cœur de la jungle, Tarzan continue d'appliquer sa loi, la loi du bon droit. Le cri terrible, tonitruant de Tarzan est connu de toutes les bêtes de la jungle. En entendant ce cri, les antilopes savent qu'elles sont en sûreté. Le lion marque un temps d'arrêt. Le crocodile se réfugie sous l'eau. L'éléphant vient vers son ami, Tarzan, l'homme singe.
J'adore, c'est deux solitudes pour le prix d'un, mais j'adorais ce générique qui n'a pas duré très longtemps. Après, ils sont revenus à la version originale.
Heureusement, hein,
mais c'est le meilleur ami des petits Ouistiti, le seul copain de la tribu des pingouins. Rien que savoir qu'il y a une tribu de pingouins dans la jungle, rien que ça, ça fait mon bonheur.
Moi, je trouve qu'on recule devant rien pour faire une bonne rime.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est le bonheur de ces génériques. Ça s'appelait Tarzan, version américaine. Et voilà, la série a duré 4 ans. Il y a une autre version dans les années 90 avec Wolf Larson qui a aussi été une coproduction avec la France. Voilà, merci les copains
d'avoir
été là. C'était un pur bonheur de vous avoir pour ce nouveau club. J'espère que vous avez pris plaisir, que ça vous a donné envie d'ouvrir des livres aussi paradoxalement, même si on vous a donné beaucoup d'exemples pour la télévision. On va se retrouver la semaine prochaine et on devrait normalement reparler de séries pour la télévision dans les années 90 avec notre invité. Et puis on devrait aussi peut-être se marrer, il est question qu'on reçoive un humoriste qui marche beaucoup en ce moment dans Paris, dans les comédie clubs, et qui sera avec nous, voilà, qui a un regard acerbé sur les clichés liés à ses origines, et vous allez voir, c'est assez jouissif. On se retrouve nous la semaine prochaine, les portes du club se referment, je vous embrasse tous les deux, merci d'avoir été là, merci à Maxime qui était à la régie,
merci.
Et à très vite pour un club. Merci les amis, ciao.